Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, Gilles Berthiel.
On dit-il, s'il vous plaît.
Pardon ?
On dit-il, s'il vous plaît.
Vous voyez, ça commence très bien. Gilles Berthiel. Vous voyez, parce que c'est Nancy, Metz et Metz
on,
surtout.
On dit Metz.
Et on dit Metz, alors, décidément. Alors, je vais essayer de ne pas trop les multiplier. Vous voyez ce que c'est que de poser des questions à un juge. Vous faites immédiatement reprendre. Et évidemment, vous comprenez que tout ce que vous allez dire sera forcément retenu contre vous. Gilles Berthiel, né à Metz le 11 octobre 1948. J'espère que je ne fais pas de faute. Vous êtes juge d'instruction. Et on vous connaît parce que vous avez eu un certain nombre de grandes affaires à instruire. Et vous publiez, j'allais dire presque coup sur coup, deux ouvrages. Un premier qui est en collaboration avec Daniel Carton, journaliste qui a commencé à La Voix du Nord, qui a été ensuite à La Croix, après Au Monde un petit peu, enfin pendant 10 ans, après Au Nouvel Observateur, qui maintenant est journaliste indépendant. Ce livre s'appelle « Dernier jugement avant liquidation, 35 ans dans la magistrature ». C'est un dialogue avec ce grand journaliste. On va y revenir, évidemment, c'est au centre de notre conversation. Tout à fait passionnant. Et puis, j'ai eu l'occasion, en arrivant, de trouver ce deuxième livre. J'en ai feuilleté quelques pages, qui est tout à fait savoureux. On y découvre d'ailleurs que vous avez peut-être... c'est peut-être normal pour un Lorrain, hein, quelqu'un de l'Est. Vous savez, ici, on est dans une terre de vin. L'habitude de conspiration clandestine et houblonnée. Voilà. Ça, c'est ce qui est en quatrième de couverture de cette bande dessinée qui est passionnante, Le pouvoir de convaincre. Et alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire résonner les deux livres l'un sur l'autre. Parce que vous avez, en exergue de cette bande dessinée, choisi un très beau texte d'Alexandre Dumas, extrait du Vicomte de Bragelonne, qui est une réplique de D'Artagnan à Louis XIV. Vous allez voir un peu où je veux en venir. « Sire, dit D'Artagnan au roi Soleil, sire, choisissez. Voulez-vous des amis ou des valets, des soldats ou des danseurs à révérence, de grands hommes ou des polichinelles? Voulez-vous qu'on vous serve ou voulez-vous qu'on plie? Voulez-vous qu'on vous aime ou voulez-vous qu'on ait peur de vous? Si vous préférez la bassesse, l'intrigue, la couardise, oh, dites-le, sire, nous partirons, nous autres. » Et dans ce livre, dans l'autre livre, vous décrivez un monde judiciaire, page 212, où vous dites il y a trois qualités, en quelque sorte, qui prédominent. La fausse cordialité, l'hypocrisie sociale, l'individualisme forcené. Alors j'avais envie, en lisant la phrase de D'Artagnan, de résumer les qualités qu'il énonçait. Si vous préférez la bassesse, l'intrigue, la couardise, oh, dites-le, sire. Et si vous me permettez, je me disais, est-ce qu'on pourrait oser dire, si vous préférez la majorité du monde judiciaire, dites-le aussi.
Oui, bon. Alexandre Dumas avait bien évidemment bien plus de talent que moi, mais c'est un des problèmes qui se pose à une institution judiciaire qui est de plus en plus exsangue, mais à part de là, les problèmes de moyens, les problèmes de l'outil du juge, à savoir ces lois à répétition qui ne cessent de se contredire et de se multiplier. Il y a également, effectivement, un problème, comme dans bien d'autres corps, d'ailleurs, un problème de qualité des hommes. Alors c'est toujours un peu difficile de le dire, parce qu'on se dit pour qui il se prend, lui, bon, moi, je me mets exactement dans le même sac que les autres. Mais on a quand même assisté au cours de ces dernières années, mais le mouvement était amorcé depuis très très longtemps, à une capitulation sans condition. On sait que c'est en 1958, mais ce n'était qu'une réforme sémantique, au moment de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, qui avait été faite par, rédigée par, pour l'essentiel, par le dernier garde des Sceaux de la 4ème République, qui s'appelait Michel Debré, avant qu'il ne préside, enfin, pas qu'il ne préside, enfin, préside aux destinées du premier gouvernement de la 5ème République. Et c'est un garde des Sceaux qui a fait beaucoup pour restaurer un peu les conditions d'exercice des métiers de justice et notamment de la magistrature. Parce qu'avant, c'était un métier manifestement sous-payé. C'est pas qu'on gagne des 100 et des 1000 maintenant, mais enfin, c'est revenu à un niveau acceptable depuis un certain nombre d'années. Donc, Michel Debré avait essayé de remettre un peu sur les rails un outil qui était déjà à cette époque-là en grande difficulté, mais le général de Gaulle l'avait tenu, et en parfait accord avec celui qui allait devenir son Premier ministre, à dire que la justice, ce n'était pas un pouvoir, il n'y avait pas de pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire. Alors, c'est un peu plus qu'un débat sémantique, mais bon, il faut le laisser à sa juste place, parce qu'en définitive, il vaudrait mieux une autorité judiciaire, ce qu'on est toujours, si tant est qu'on ait encore de l'autorité en bonne santé, qu'un pouvoir judiciaire qui serait déliquescent. Je crois que malheureusement, on a une autorité judiciaire assez déliquescente et ça n'arrange rien.
Alors, si vous voulez bien, on va peut-être d'abord pas faire un cours détaillé, hein, et puis je veux pas par respect avec le public évoquer quelque chose qui serait la justice pour les nuls, hein, mais je voudrais que vous expliquiez peut-être concrètement un certain nombre de choses d'un système dont il faut bien reconnaître que les justiciables eux-mêmes sont parfois très désemparés. Alors, il y a ce qu'on appelle la magistrature du siège et puis le parquet, hein. Où on dit magistrature debout, hein. La magistrature du siège, elle est assise, ils sont inamovibles, et puis...
Assise ou couchée, ça dépend des moments.
Voilà, donc on va essayer au départ d'évoquer les faits, rien que les faits, on va dire, et puis le parquet, donc la magistrature debout, qui sont donc les représentants, en quelque sorte, du ministère de la Justice. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ou me corriger si j'ai dit des bêtises, et surtout les fonctions des uns et des autres ?
Oui, je vais vous renvoyer à vos souvenirs d'enfance, lorsque vous étiez à l'école primaire ou dans le secondaire, au tout début du secondaire. On vous a certainement appris ce que vous avez oublié depuis, mais enfin les élections sont là pour nous le rappeler de temps en temps. Quelle était la composition du conseil municipal, quelle était la composition du conseil général, ce que faisaient en gros les uns et les autres. Je n'ai pas conservé le souvenir, même si j'étais un élève dissipé, mais je ne crois pas que dans ces programmes scolaires, on n'ait jamais véritablement évoqué la justice. Alors, la justice, c'est vrai, elle a son langage, mais je dirais qu'on fait tout pour compliquer un peu les choses, et on le voit quotidiennement lorsqu'on est on exerce notre activité professionnelle, ou lorsqu'il y a le summum du journalisme qui consiste à poser un micro au bord du trottoir et poser 3-4 questions aux gens, les gens mélangent tout. Ils ont déjà du mal à distinguer un magistrat d'un avocat. Ah, alors oui. C'est vrai qu'on porte à peu près la même robe, il y a les pitoges en plus, et puis on a les revers luisants, signe de notre magnificence. Simplement, il y a un bon moyen de distinguer le magistrat de l'avocat, c'est que le magistrat ne demande pas d'argent. Il est payé par la République. Ou alors, s'il vous en demande, alors là, méfiez-vous. Mais bon, un avocat, c'est fait pour défendre. un procureur de la République, on parle des magistrats debout, là, parce qu'ils se lèvent pour requérir, ce sont des accusateurs qui représentent, ils ne sont pas que des accusateurs, mais ce sont des accusateurs publics qui, au nom de la société, prennent des réquisitions et défendent les intérêts de la société. Pas des victimes, hein, des intérêts de la société. Quand le procureur de la République est au parquet général, c'est-à-dire l'institution hiérarchiquement plus élevée, et qu'il va requérir aux assises, on appelle ça comment ? On appelle ça un avocat général. Alors parfois, même au cours de ma carrière, certaines personnes m'ont appelé lorsque je requérais aux assises pendant mon bref passage, de pas tout à fait 4 ans au parquet général de Metz.
4 ans au parquet général de Metz.
De Metz, oui. Il y a des gens qui étaient poursuivis qui m'appelaient « Monsieur la tournée générale » ou « Votre honneur ». La tournée générale, je veux bien, parce que... mais bon, « Votre honneur », c'était m'en faire beaucoup. Mais c'est quand même un peu révélateur de cette espèce de formatage des esprits à travers les feuilletons, notamment américains, qui donnent l'idée de la justice à partir de la matrice américaine, alors que c'est pas du tout comme ça. Donc, un procureur, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Il prend des décisions importantes, il poursuit... Alors que le juge du siège, eh bien, il décide. Qu'il soit juge des enfants, qu'il soit juge d'instruction, qui instruit donc, qui fait des enquêtes pour parfaire des dossiers qui ne sont pas en mesure d'être jugés immédiatement, que soit le juge des affaires matrimoniales, qui va décider d'un divorce et des mesures concernant la pension alimentaire, les enfants, que soit le juge de l'expropriation, le juge qui va statuer sur l'interprétation d'un contrat. Là, ce sont des juges. Donc, tous les juges sont des magistrats, mais tous les magistrats ne sont pas des juges, puisqu'il y a le corps des procureurs. Et pour entretenir encore un peu plus la confusion, ben tous ces gens-là sortent de la même école. L'École nationale de la magistrature, qui a été installée à Bordeaux grâce à M. Chaban-Delmas lorsqu'il était Premier ministre, aussi sûrement que M. Giscard d'Estaing avait installé l'École nationale des impôts à Clermont-Ferrand lorsqu'il était ministre des Finances.
Alors, oui, vous savez, au passage, Alain Perfit, garde des Sceaux, entre 1976 et 1981, avait eu le frémissement et l'idée de transférer l'ENM de Bordeaux à Provins. Hein, il faut s'en souvenir, ça. Bon, mais juste une chose.
Moi, qui étais à l'École nationale de la magistrature en 1976, je n'étais pas concerné, mais j'ai quand même des frissons rétrospectifs.
Oui, en Provins, bon.
C'était mieux Bordeaux.
Alors, juste, donc, on a bien compris... Un substitut du procureur, un vice-procureur ou un procureur, quand ils sont en audience, sont des avocats généraux. On peut être substitut
oui,
du procureur.
Oui, ils poursuivent. Voilà, ils poursuivent. Que méfiez-vous des titres aussi, méfiez-vous des mots. Bon, la magistrature, comme beaucoup d'autres institutions, ressemble étrangement à une armée mexicaine. Le substitut, c'est-à-dire le magistrat du parquet de base, ne le reste pas longtemps. Alors après, on devient tout de suite premier substitut, ou vice-procureur, ou premier vice-procureur, ou procureur adjoint. Au premier procureur adjoint ou procureur alors, de la République.
Je continue, excusez-moi pour le côté sans doute très très médiocre de mes questions.
Non,
on va dire,
didactique.
Hein. Quelqu'un, j'ai un problème, hein, je rencontre un problème, je suis agressé, je suis victime d'un crime éventuellement, bon, ou un proche, je porte plainte. Je porte plainte auprès du procureur de la République, c'est ça ?
Oui, voilà. Tout à fait. D'un service de police.
Auprès d'un service de police qui transmet au parquet, comme on dit, hein, puisque les procureurs, c'est le parquet, c'est ça ?
Oui, parce qu'ils sont sur une estrade pour requérir.
D'accord. Et donc, le procureur décide ou non de l'opportunité de poursuivre ou de transmettre ou non à un juge d'instruction ? Oui ou non ?
Oui, le procureur de la République, qui est un homme très très puissant, dispose d'un certain nombre de prérogatives, ce qui est normal d'ailleurs, puisqu'il est le représentant de la société, il doit faire valoir les intérêts de la société dans le domaine pénal essentiellement, et demander des peines, mais c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. Mais c'est aussi un aiguilleur. On est dans un système, le système français est celui de l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le procureur de la République, même si une infraction est parfaitement constituée et même si l'auteur est identifié, il peut très bien décider de ne pas poursuivre et de classer sans suite. Il y a d'autres systèmes, comme le système italien, où c'est le système de l'égalité des poursuites. C'est-à-dire que dès le moment où une infraction est constatée dans ses éléments constitutifs, eh bien, il est obligé de poursuivre. Alors, il faut encore faut-il identifier l'auteur. Mais on sait très bien que le second système, celui de l'égalité des poursuites, est assez largement hypocrite parce que les justices européennes, et je dirais même les justices du monde entier, ne sont jamais en capacité, compte tenu de la taille l'institution, de tout poursuivre. C'est-à-dire que le procureur de la République, qui est dans un système comme le système italien de l'égalité des poursuites, quand il ne veut pas poursuivre, il fait semblant de ne pas trouver. Et il aboutit au même classement que celui décidé par le procureur de la République.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de plaintes que reçoivent les procureurs en France par an?
Bon, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais c'est plusieurs millions.
Surtout
que maintenant, sur une institution dans laquelle nos concitoyens n'investissent pas une confiance massive, et je peux dire que je le comprends parfaitement, surtout vu de l'intérieur. Mais néanmoins, il y a ce paradoxe-là, bien que cette institution soit décriée, peut-il en être autrement, d'ailleurs, compte tenu de la nature même de ces interventions. On dit toujours qu'un procès fait au moins deux mécontents. Celui qu'il a gagné parce qu'il estime ne pas avoir assez gagné, et celui qu'il a perdu pour la bonne raison qu'il l'a perdu. Donc, on ne sera jamais populaire.
Mais vous dites dans le livre, monsieur le juge, vous dites, avant, le maire, le curé, il pouvait régler la question.
C'était une sorte de mauvais... Il y avait des choses qui se réglaient...
C'était une sorte de mauvais arrangement, peut-être, mais on s'arrêtait, quoi.
Et puis, il y a le vieux adage populaire en disant un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Bon, ça se limite à certaines choses. Puis, me reviennent un peu à l'esprit les chansons des avocats au cours des soirées houblonnées ou arrosées avec tout autre liquide de nature non minérale, non essentiellement minérale. Les avocats chantent « On gagne... on perd les bons procès, on gagne les mauvais ». Donc il y a quand même une espèce d'équilibre qui se fait, mais bien évidemment, je le dis avec un peu d'ironie, celui qui a une cause à défendre et qui l'estime juste, il préfère la gagner. Alors pour que la justice soit le moins aléatoire possible, encore faut-il qu'elle fonctionne dans des conditions à peu près acceptables, ce qui n'est plus le cas depuis de très très nombreuses années. C'est Robert Badinter qui disait il y a encore peu que depuis le second conflit mondial, cette institution judiciaire qui a étendu considérablement le champ de ses investigations, on n'est plus à la justice du 19e siècle qui avait un champ d'intervention très très cantonné, les assassins de village, les voleurs de poules et quelques contentieux au civil parce qu'il n'y a pas que la justice pénale. 70% des décisions de justice qui sont rendues dans le domaine de la vie quotidienne par les juridictions. Mais l'outil n'a jamais été autant sous-dimensionné depuis les années 50, avec une accélération qui va à la vitesse de l'éclair de la société, de sa complexité, des phénomènes de violence et la technicité. Bon, le juge des années 50 ne s'occupait pas de problèmes de l'environnement, de cybercriminalité et alors, pour cause. Et maintenant, on est de plus en plus, on fait le grand écart entre ce qu'on attend légitimement de nous et ce qu'on est en mesure de servir.
Toujours pour avoir une idée de l'état des lieux, finalement, le juge d'instruction, il intervient dans combien d'affaires qui ont été portées à la connaissance du procureur. Et le procureur décide de saisir un juge d'instruction, en gros, pour... Quelle proportion ?
La loi de procédure dit qu'en matière criminelle, l'enquête, l'information judiciaire est obligatoire. Pourquoi ? D'abord parce que les enjeux sont beaucoup plus considérables, notamment en raison même de la nature et de la gravité des faits qui ont été perpétrés. Je rappelle juste au passage qu'un crime, c'est pas forcément un crime de sang. Un viol, c'est un crime. Un faux en écriture publique commis par un notaire, c'est un crime. Un vol avec arme, c'est un crime. Hein. Le code pénal, c'est le catalogue de la redoute à Roubaix. Hein. Plus l'article est luxueux, plus c'est cher. Donc plus ça monte. Et si vous payez des accessoires comme les actes de torture et de barbarie, ça fait monter les tarifs encourus. Et le code de procédure, ben, c'est le mode d'emploi qui fait quoi, quels sont les pouvoirs de l'un, quels sont les pouvoirs des autres, quels sont les délais. Alors, en matière criminelle, la loi de procédure dit que l'instruction préparatoire est obligatoire. Donc, elle est confiée à un juge d'instruction, à condition, bien sûr, qu'il y ait une personne d'identifier, ce qui n'empêche pas le parquet d'ouvrir des informations contrites et de confier l'enquête dans les jours qui suivent les faits, ou avec un délai plus important, à un juge d'instruction. Au moment où s'est posée la question de la suppression du juge d'instruction qui avait été mise sur le tapis par le président de la République à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation au tout début janvier 2009, on a entendu le garde des Sceaux de l'époque, c'était Madame Dati, et puis ensuite Michel Alliou-Marie en disant « Mais attendez, c'est pas un problème, le juge d'instruction n'intervient plus que dans 4 ou 5% des affaires. Je reviens à mon école primaire des années 50. En mathématiques, lorsqu'on commettait de graves contresens, je me souviens qu'on prenait des claques et que l'instituteur nous disait « on n'additionne pas les carottes et les navets ». Parce que 3 navets plus 2 carottes, ça ne fait pas 5 carottes ou 5 navets. Donc, la définition commune ne pouvait pas être trouvée. Aujourd'hui, je pense qu'on traite encore 3% des affaires. Et dans 18 mois, 2 ans, on n'en traitera peut-être plus que 2%. Pourquoi ? D'abord parce que les parquets qui sont hiérarchisés, qui sont soumis au garde des Sceaux, avaient anticipé la réforme souhaitée par le président de la République. Et comme c'est l'aiguilleur, le procureur, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il peut très bien décider de le conserver en enquête préliminaire, c'est-à-dire sous le contrôle du seul parquet, les investigations tant que quelqu'un n'est pas identifié. Il y a d'ailleurs un exemple illustre ici qui a abouti à Bordeaux, dans l'affaire Bettencourt, bien que là on ne soit pas en matière criminelle, mais on est dans une affaire particulièrement complexe. Il fut un temps où mon collègue Philippe Courroy, procureur de la République à Nanterre, qui est un homme de grand talent, au demeurant, conservait sous la tutelle du parquet l'ensemble de ce qui allait devenir les affaires Bettencourt. Bon, quand l'affaire a été enfin dépaysée pour les raisons que vous subodorez un peu, eh bien quand même il y a eu une ouverture d'informations qui permet de confier, parce que c'est quoi un juge d'instruction, c'est un enquêteur judiciaire, mais qui est indépendant du pouvoir politique. Ah, il ne suffit pas qu'il l'affirme, il a le statut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déplacer sans son aval. On ne peut pas lui retirer les affaires, sauf faute disciplinaire grave, et il ne peut être dans ce cas-là, il ne peut être dessaisi que par ses pairs. Donc ce n'est pas un magistrat du parquet qui est obéissant, et celui qui ne ferait pas preuve d'une loyauté absolue vis-à-vis de son procureur de la République, et qui s'occupait des affaires financières, le procureur peut le mettre à la circulation le lendemain, sans autre forme de procès. Donc, il y a quand même un intérêt vital pour les affaires à fort enjeu. C'est ce que sont les affaires de criminalité organisée, les affaires économiques et financières, et singulièrement les affaires politiques ou financières, les affaires de santé publique, les affaires des grandes catastrophes industrielles ou des accidents d'avion, parce qu'il y a toujours éventuellement derrière la responsabilité éventuelle du constructeur, les affaires de pollution majeure, comme la catastrophe de l'Erika. Et il faut des investigations pour mettre en état d'abord le dossier d'être jugé. Il faut que ce soit confié à un magistrat indépendant. Et sur l'indépendance, je tiens quand même à dire que on pense souvent que l'indépendance, ça peut être aussi le paravent pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas le travail chevillé au corps, de se la couler un peu douce, et en disant, avant qu'il y ait des réactions de l'institution, il va se passer un certain nombre de... un temps relativement important. Mais l'indépendance, en soi, elle n'est pas là pour le confort du juge, même si elle peut être pervertie en quelques circonstances. L'indépendance, elle est, c'est une garantie pour le justiciable. Si demain, je suis amené à vous juger, encore que ce ne soit pas véritablement mon métier, moi j'instruis, mais je suis un juge du siège, je peux être amené à vous juger dans une formation correctionnelle. Je vous jugerai bien ou mal, vous le considérerez vous-même, comment ça a été fait, mais qu'au moins, il vous faut avoir la certitude que si j'ai décidé de telle façon, ce n'est pas parce qu'on me l'a demandé. Que ce soit le président de la République, ou le copain du coin, ou celui qui est dans tel réseau, ou tel autre. L'indépendance, c'est la première garantie pour le justiciable d'avoir la moins mauvaise décision possible. Parfois, il y en a qui sont néanmoins mauvaises. Il ne suffit pas de dire que ça a été rendu par un juge indépendant. C'est nickel chrome. Je n'irai pas jusque-là dans la publicité mensongère, bien évidemment.
Alors, vous décrivez un système. Quand même, je voudrais donner quelques chiffres. Hein. Le budget du ministère de la Justice, 7 milliards, un peu plus de 7 milliards, 7,1 milliards d'euros.
Oui, ne carottez pas 100 millions, on est à ça près.
7 milliards, 100 millions d'euros, 0,19% du PIB. Donc c'est effectivement rien du tout, hein, on va dire, c'est absolument ridicule. Faut rappeler, il se trouve que moi je... Par expérience professionnelle, je connais bien le Conseil de l'Europe et c'est une institution qui, à Strasbourg, est la structure qui protège les droits de l'homme, hein, institution internationale. Il y a régulièrement ce qu'on appelle du monitoring, hein, du Conseil de l'Europe en matière, alors, soit de statut des prisons, de situation dans les prisons, soit du fait de l'organisme du juridictionnel qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, jugement sur ce qu'on appelle le délai raisonnable. La France est très, très régulièrement épinglée par cette organisation internationale et fait l'objet de rapports réguliers du commissaire européen aux droits de l'homme, etc., sur l'état de sa justice. Vous employez même une expression qui fait froid dans le dos. Vous parlez de tri sélectif en disant, quand on est dans un cabinet de juge d'instruction, on fait un peu, on dirait presque en matière de bibliothèque, du désherbage. Hein. Le nombre d'affaires, le portefeuille moyen d'un cabinet de juge d'instruction, c'est 120-130 affaires.
Oui, dans un cabinet de service général, voilà. C'est-à-dire les généralistes, titre qu'il y a des spécialistes dans le domaine de la médecine, ben vous avez les généralistes qui traitent, non pas le tout venant, parce que ça pourrait être considéré comme étant péjoratif, mais qui traitent les crimes de sang, les affaires de viol, les affaires de violence, les affaires d'escroquerie, d'abus de confiance.
Pour bien comprendre,
et vous avez des services, je termine juste, spécialisés, bon, il y a la lutte antiterroriste, la santé publique, les affaires économiques et financières, et maintenant les juridictions interrégionales spécialisées, les GIR, ceux qui s'occupent de la criminalité organisée. Et il faut savoir que dans un pays, puisqu'on évoquait les chiffres, un pays comme l'Italie, 10% du produit intérieur brut de l'Italie, c'est le chiffre d'affaires de la mafia. Il y a le chiffre d'affaires de la mafia, et ça ne s'arrête pas après aux frontières, hein, parce que tout ça est réinvesti dans l'économie légale avec les perversions qui en résultent. 10% du produit intérieur brut est procuré à l'Italie par les activités mafieuses.
Et donc il suffit qu'un juge d'instruction dans un tribunal soit absent et non remplacé, congé, avec absence de remplacement, le nombre d'affaires peut immédiatement monter à 150, 160, 170, avec tout ce que ça signifie de difficulté de reprendre telle ou telle affaire. Bon, ça, c'est un peu ce tableau, qui est un tableau, on va dire, effectivement sinistré, hein, de ce qui est normalement, quand même, en fonction de la théorie et de la séparation des pouvoirs. Et dans la ville, j'allais dire, de Montesquieu, on y est sensible, quelque part, le troisième pouvoir, celui qui garantit finalement aux citoyens l'égal accès à la justice, bien évidemment. Alors, ça, c'est la situation. Parallèlement à ça, on a le sentiment que et c'est ce qui ressort de votre livre, et c'est très, très, très précisément expliqué, les politiques, globalement, se servent un peu, toutes choses égales par ailleurs, de la justice, j'allais dire comme parfois ils peuvent le faire de l'Europe, c'est-à-dire, finalement, en France, bah, les soucis, les problèmes, les choses qui vont pas, c'est soit l'Europe qui est responsable, soit la justice qui dysfonctionne, avec une forme d'instrumentalisation qui joue à la fois sur l'émotion, évidemment, dans une société qui est de plus en plus compassionnelle, et sur une absence totale de prise de responsabilité face à l'État, si j'ai bien compris, dans lequel la justice est placée. Alors, à ce sujet-là, je voudrais que vous expliquiez, par exemple, parce qu'il y a un très beau passage dans votre texte, sur l'affaire de Pau, l'hôpital psychiatrique de Pau, mi-décembre 2004. Un jeune homme, hein, qui s'appelle, je crois, Dupuis, schizophrène, puis il exécute, massacre, une infirmière, une aide-soignante, à l'hôpital psychiatrique départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et puis, s'ensuit, en particulier en 2007, une intervention, 2007-2008, une intervention du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est avocat de profession et qui ose quelque chose d'assez étonnant. Il joue sur l'expression « non-lieu » et il utilise l'expression « non-lieu » dans un sens, j'allais dire, commun, entre guillemets vulgaire, hein, c'est-à-dire un sens non professionnel, et il dévoie complètement, très précisément, cet acte de justice qui a amené finalement le tribunal à dire qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément ce qui s'est passé, oui, et la leçon que vous en tirez?
Oui, bon, on va commencer par la leçon. Là, c'était de la malhonnêteté politique caractérisée. On sait très bien que lorsque des faits d'une particulière gravité sont commis, bon, tout le monde est ému, et pour reprendre la formule célèbre, personne n'a le monopole du cœur, ni la classe politique, parce que c'est ce qui a été un peu soutenu ces derniers mois, pas davantage les magistrats qui sont aussi émus lorsque se passent des faits divers particulièrement graves, et malheureusement dans une société qui devient de plus en plus violente et où les nouvelles circulent à la vitesse de l'éclair à travers les différents réseaux d'information, on a pu ce confort avec tous les guillemets du monde qui pouvait exister il y a quelques décennies quand il se passait quelque chose au fin fond de du pays du Béarn, avant que ça remonte en Lorraine ou dans le nord de la France, à part les lecteurs assidus de journaux, ça ne se savait pas. Alors, pour cette affaire de Pau, il y a toujours eu des principes. La justice, qui a déjà énormément de mal à s'acquitter de sa tâche, mais là, ça ne... ce que je vais dire, là, ne... n'a rien à voir avec les moyens de cette justice. On ne juge pas les fous, pour prendre une formulation tout à fait commune. D'une manière générale, les fous, ça ne veut pas dire qu'il suffit...
C'est une donnée internationale, ça, enfin, c'est un principe universel.
Oui, oui, dans toutes les grandes démocraties. Parce que quelqu'un qui est fou, mais au sens véritable du terme, c'est-à-dire qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Le schizophrène qui est habité, pas tous les schizophrènes bien sûr, parce que là aussi il y a eu des dérapages considérables dans les analyses qui ont été faites, mais celui qui est fin fou, qui n'est pas responsable de ses actes, eh bien, on ne le juge pas puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et s'il est estimé dangereux, parce qu'il peut très bien être estimé dangereux, ben il faisait l'objet d'un placement d'office. C'était une décision administrative du préfet qui saisissait un collège d'experts psychiatres. Et le type restait enfermé pour une durée non déterminée. Et il y en a qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années... d'ailleurs à Cadillac, il y a des sujets particulièrement lourds, ils étaient privés de leur liberté, et puis là il n'y a pas un terme, il n'y a pas de droit, c'est en fonction de l'évolution de la société. L'ancien président de la République avait estimé que tout cela c'était pas normal, et qu'il fallait créer des espèces d'audiences, puisque à partir du moment où on considère que l'audience pénale est un lieu cathartique pour apaiser les victimes, Eh bien, il fallait donner aux victimes des agissements des personnes aliénées, démentes au sens de la loi. Il fallait créer ces audiences. Il y en a eu quelques-unes. Alors, ça dépend aussi un peu des clients, entre guillemets, mais quand vous avez un type qui ne comprend rien, qui pousse des cris, qui bave, etc., je ne suis pas franchement persuadé que ça améliore l'état des victimes et que ça apporte quoi que ce soit à la justice. Puis, en plus de ça, il n'appartient pas à l'institution judiciaire. Bien sûr, il faut qu'elle ait une grande compassion pour les victimes, et j'en ai vu malheureusement mon lot dans ma carrière où de ce qui en a tenu lieu, mais c'est pas le but premier ni même second de la justice. Le juge, il est fait pour juger. Et pour juger, il doit se tenir autant que faire se peut, et c'est extrêmement redoutable, parce que la sympathie du juge, comme c'est un homme, elle va plutôt vers la victime que vers l'auteur, à moins d'être complètement tordu. Mais c'est le président de la République qui a fait créer un juge des victimes. C'est la négation même de la définition du juge. Est-ce qu'on va faire un juge des auteurs, un juge des co-auteurs, un juge des complices? Non, le juge, il est là pour juger, en fonction de ce que dit la loi, en fonction de son appréciation des faits, dans le respect des règles de procédure, et de dire en définitive que... J'ai vu des gens, notamment des personnes qui ont dû, malheureusement, en leur qualité de victime... subir soit les atermoiements de la justice, soit l'exercice infini de voies de recours couronnées de succès. Vous savez, quand vous avez perdu un proche qui a été tué, alors, on est au contact de ces gens-là aussi.
Le cas de Madame Erignac, par
notamment,
exemple.
Notamment. Et c'est toujours pas fini. Enfin, on va voir si c'est... Mais vous dites, quand vous leur parlez... Quand vous leur expliquez qu'on continue de chercher avec acharnement, mais qu'on n'a toujours pas trouvé, et ça peut être long. J'ai vu également les familles de victimes de Guy Georges. Ces gens-là, et c'est humain, et on se comporterait exactement de la même façon si on était à leur place, se disent, quand il aura été arrêté, ça ira mieux. Et puis après, il est arrêté. Puis ça ne va pas mieux. Puis il faudrait qu'il explique... Puis il faudrait qu'il arrête de mentir. Toute chose qu'on ne peut pas empêcher, c'est dans la nature humaine, c'est comme ça. Puis après, ah oui, mais quand il sera jugé, je pourrai tourner la page. Je ferai mon deuil. C'est des pages qui, malheureusement, ne se tournent jamais. Alors, à l'inverse, si on ne trouve jamais, ou alors si ce qui se passe à l'occasion du processus judiciaire, ça ne fait que rajouter à d'indicibles souffrances, mais en tout cas, moi, je ne suis pas... médecin, psychologue, ce qu'on veut, je ne suis pas en mesure de soulager la peine de ces gens-là. Et de tordre un peu le sens de la mission judiciaire, alors que cette pauvre institution a déjà tellement de mal à s'acquitter de sa mission initiale, et puis je dirais presque de la seule, même si elle recouvre de multiples facettes, eh bien non, c'était pas bien de se comporter comme cela. Et puis, dans le même registre... Alors donc, on a fait ces espèces d'audiences-là, et mieux, mais ça vient peut-être un peu de l'Europe. Maintenant, ce sont les juges des libertés et de la détention qui sont en charge du contrôle des hospitalisations d'office, des hospitalisations forcées. Je suis juge.
Alors qu'avant, c'était les psychiatres.
Avant, c'était les psychiatres avec l'autorité préfectorale. Mais comment, au vu de quoi ? On a l'habitude des fois de statuer sur des éléments un peu incertains parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Je prendrai l'exemple des procédures de divorce. Le juge, il vit pas avec les gens qui veulent divorcer ou qui veulent pas. Hein, donc, on connaît, pour faire court et un peu schématique, il y a tous les copains du mari qui disent que c'est le meilleur des types, très dévoué, et que... Excusez-moi. Oh, mais en plus de ça, il est bloqué, je peux rien faire. que c'est le meilleur des types et qu'elle, c'est une harpie. Et puis d'un côté, il y a les copines de la femme qui disent que lui est un abruti, un ivrogne et qu'il ne rentre jamais. Bon, ben vous avez ça des deux côtés, vous entendez les deux parties, vous faites des audiences pompeusement appelées de conciliation, j'en ai fait quelques-uns à titre de remplacement. Ça dure 10 minutes ou un quart d'heure montre en main, et une fois vous faites rentrer la femme d'abord, l'autre fois le mari d'abord, et puis après tous les deux ensemble, et puis vous ne conciliez pas, vous rendez une ordonnance de non-conciliation. Mais là, alors, oui, il faut bien que quelqu'un décide. Souvent sur des éléments quand même très très incertains et partiaux, alors il faut un peu de pif. Mais là, pour les hospitalisations d'office, mais qu'est-ce que j'ai comme formation pour être... Alors je comprends bien, dans la pureté des principes, c'est une privation de liberté aussi, il faut que ce soit contrôlé, mais par des juges. C'est encore un contentieux supplémentaire qui nous a été donné. En plus de ça, on disait à nos collègues qui ont été en charge de ce contentieux là depuis 6 mois à peu près maintenant... Et ça représente quand même quelques centaines de milliers d'affaires sur l'année. On disait, vous n'avez qu'à aller dans les hôpitaux psychiatriques. Le juge, on dit non, mais si on rend des décisions de justice, on les rend dans les palais de justice. Ça a désorganisé les services d'hospitalisation psychiatrique, puisque c'est... Et souvent, les types... Mais, les malades sont des malades mentaux, enfin, sont des gens qui sont atteints de troubles psychiatriques. Dès qu'ils arrivent dans un palais de justice, ils disent « j'ai rien fait ». On n'arrive même pas à leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les juger ou qu'on ne leur reproche rien. Donc voilà, ce genre de réforme complètement éthérée dont on nous a abreuvé ces dernières années.
Il y a des choses qui paraissent, pour le profane, si je puis dire, complètement surprenantes. Vous évoquez l'incendie d'un immeuble boulevard Vincent Auriol à Paris, 17 morts, 14 enfants, 3 femmes, 2 demi-journées de procès, le procès Clearstream, 3 semaines. Qui décide de la longueur de ce qui, pour le procès Clearstream, était un show, on va dire quasiment un show télévisé.
Ah oui, c'est une instrumentalisation de la justice, toute l'affaire.
Qui décide ça ?
Eh bien, écoutez, qui décide de la durée des audiences sont les présidents des différentes formations.
Qui sont
les magistrats du siège, en accord siège, avec le parquet. Oui. Mais bon, on sait très bien qu'à travers l'affaire Clearstream, déjà, qui a mobilisé 2 juges d'instruction qui avaient des affaires considérables à leur cabinet, au pôle financier, et qui mettaient en cause des organismes bancaires. Tout a été... c'est une instrumentalisation par définition de la justice. Bon, je sais bien qu'il y avait une partie civile très très connue...
qui était le président de la République.
Qui était le président de la République. Des prévenus ou des personnes soupçonnées qui étaient tout autant, monsieur de Villepin et quelques autres qui sont passés au ras de la balustrade, notamment madame Michèle Alliot-Marie, en sa qualité d'ancienne ministre de la Défense. Bon, pourquoi ? Pour des histoires de corne-cul qui, en termes de répression, n'aboutissaient à rien. Alors, bon, on connaît depuis La Fontaine, déjà bien avant, mais enfin, il l'a bien dit, selon que vous serez puissant ou misérable. Je ne sais pas si des jugements de cour vous rendent blanc ou noir, mais en tout cas, l'importance des affaires, c'est ça. Mais la quotidienneté de la justice, c'est souvent les affaires de la misère économique, de la misère sociale, de la misère intellectuelle. Et pour l'incendie du boulevard Vincent Auriol, qui est intervenu, je ne sais plus, en 2004 ou 2005, où il y a eu 17 personnes d'origine africaine et bon nombre d'enfants. Bon, l'instruction a été menée comme elle a été. On a considéré qu'il s'agissait d'un incendie criminel, enfin en tout cas un acte volontaire au départ, on n'a jamais trouvé l'auteur. Alors on comprend qu'on va... Parce que là non plus, l'audience n'est pas un exercice pour épancher la douleur des victimes, mais il faut quand même leur témoigner un peu de considération. Alors même s'il y avait que l'organisme qui gérait cet immeuble-là dans un grand état délabrement, et puis celui qui avait fait des travaux parce qu'il y avait des problèmes de saturnisme, il avait posé des panneaux. contreplaqué. Donc on avait quelque part de lampistes. En tout cas, on n'avait pas l'auteur principal, mais deux ou trois demi-journées d'audience, c'était se moquer du monde. Alors, moi, je connais la présidente d'audience qui avait présidé la première affaire. Après, elle était atterrée, parce qu'elle est aussi, et c'est pas une circonstance atténuante, bien sûr, mais c'est un début d'explication, elle est noyée sur les dossiers en disant, ben là, finalement, il va pas y avoir grand-chose, mais il faudrait peut-être qu'un jour, cette justice, la nôtre, se rende compte qu'à un moment, c'est pas parce qu'on est en très grande difficulté qu'on doit passer par pertes et profits, et en donnant des signes forts, en disant, ben vous, on n'a rien trouvé, il y a fort à parier que si c'était M. De Villepin ou M. Sarkozy qui avait habité cet immeuble menaçant ruine, mais ça, il y avait objectivement un peu de chance que ça arrive, ça aurait duré un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est du fait du scandale même des avocats, qu'ont généré les avocats, et à juste titre, que cette affaire a été reportée, elle a été jugée sur 6 ou 7 demi-journées d'audience. Ça n'a pas satisfait pour autant les victimes qui ont estimé que l'enquête avait été mal faite et puis qu'on n'avait pas trouvé, hein, ça, c'est l'aléa, mais au moins ça ressemblait un peu à quelque chose.
Il y a autre chose qui est très frappant dans votre livre, qui même est glaçant, c'est page 234. Je lis parce que autant vous donner la parole. « Mais ce que le magistrat que je suis trouve absolument scandaleux, c'est lorsque la justice octroie des dommages et intérêts à un père, à une mère dont l'enfant est assassiné, elle estime, selon les barèmes en vigueur, à 25 000 euros maximum, le préjudice moral subi par le parent éploré. Pour Bernard Tapie, le préjudice moral, payé comme le reste sur les deniers de la collectivité, puisqu'à l'époque des faits, la banque était nationalisée, le Crédit Lyonnais donc, a été fixé par les trois arbitres sélectionnés, dont je précise l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, à 45 millions d'euros, le prix de la perte de 1800 enfants. Je ne dis pas cela pour choquer, simplement pour mettre en lumière une telle absurdité littéralement révoltante. On pourrait d'ailleurs vous accuser d'utiliser des arguments qui sont un peu spectaculaires et qui frappent à l'émotion, mais il y a quand même quelque chose de très fort là, dans cet exemple. C'est qu'encore on constate qu'il y a un quantum, comme on dit, hein, le prix des choses, et finalement, la vie humaine n'est pas forcément ce qui est le plus, le plus élevé, non ?
Oui. Mais je vois pas de quoi on pourrait m'accuser. Bon, peut-être de populisme, etc. Non, je crois que parmi les ferments de révolte et donc de violence, hein, parce qu'il n'y a pas de révolte sans violence, il y a l'injustice, bien sûr, il y a la faim, il y a quand ceux qui n'ont plus rien, ils n'auront plus rien à perdre, mais il y a aussi l'indécence absolue. L'indécence absolue, ça consiste effectivement, puisque si vous avez le malheur de perdre un enfant assassiné, les barèmes, parce que derrière il y a les compagnies d'assurance, et pour ne pas encore accroître les risques d'injustice, bon, il y a une espèce de cantonnement, donc vous perdez un fils, une fille, à la suite d'un assassinat dont l'enfant était la victime. Chaque parent a droit à une indemnité qui est tarifée, il y a des barèmes, entre, au titre du préjudice moral, après il peut y avoir des préjudices économiques, etc., de 17 000 à 25 000 euros. Préjudice moral, c'est ce qui se distingue du préjudice physique, parce que là, on peut indemniser, même si on ne peut pas remettre le bras qui a été coupé. C'est pas un préjudice esthétique, c'est le prix, c'est même pas le prix de la douleur physique, mais c'est le prix de la douleur morale ou de l'atteinte qu'on vous a portée. Cette commission d'arbitre, effectivement, dans laquelle figurait Pierre Mazeaud, le président du Conseil constitutionnel, ex-président du Conseil constitutionnel, l'avocat Jean-Denis Bredin, académicien de France, hein, qui a une vision à le grand pied, mais le grand bien lui fasse, et M. Pierre Estoupe, ancien premier président de la Cour d'appel de Versailles, après avoir été mon premier président à Nancy quand j'ai débuté. Et je peux vous dire que déjà à l'époque, j'en avais conservé un exécrable souvenir. Eh bien, dans cette affaire, qui était devant la justice, qui était montée jusqu'à la Cour de cassation, où effectivement l'État était impliqué parce que les excentricités du Crédit Lyonnais avaient été commises à l'époque où la banque était nationalisée. C'est donc l'État qui devait, à travers un organisme qui devait réaliser ses actifs, qui était responsable des condamnations pécuniaires. Monsieur Tapie a touché près de 400 millions d'euros au titre toute clause de préjudice confondue, à l'époque où le ministre de l'Intérieur français, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, Christine Lagarde, avait dit que bon, ben, une fois qu'il aurait payé ses impôts, comme si c'était exceptionnel de payer ses impôts, il lui resterait 20 à 30 millions. En réalité, il lui reste à peu près 250 millions. Mais 45 millions au titre du préjudice moral, c'est-à-dire l'atteinte qui a été portée à son image de Bernard Tapie, batteleur de foire et vendeur de casseroles, et qui a présidé aux destinées de l'OM avec le talent et les résultats aussi qu'on lui connaît. Il ne faut pas exagérer. Alors moi je dis, ça ce n'est pas du populisme, c'est de dire, mais on est devenu fou dans cette société, dans cette justice, de la même façon que j'ai cité le chiffre de 4,9 milliards d'euros qui a été évaporé en quatre coups de cuillère à peau par la Société Générale par Jérôme Kerviel, qui bénéficie de la présomption d'innocence puisqu'il n'a pas encore été jugé en appel. 4,9 milliards d'euros en quatre coups de cuillère à peau pour des opérations de spéculation à la hausse, à la baisse, sur des actifs qu'on ne possède même pas. Eh bien, c'est 70% du budget de l'année 2010 de la justice. On est dans une société où on a perdu le sens des valeurs et surtout le sens de la réalité. Alors si demain ça pète, il faudra pas s'étonner. Et demain, c'est ceux-là qui viendront nous voir en disant bon, on est menacés. Moi, je pense avoir consacré ma vie avec plus ou moins de bonheur à la lutte contre ceux qui violent la loi, et singulier contre les violents. Mais bon, vous savez, les années de plomb en Italie, c'est pas si vieux que ça, et il y a de telles tensions à l'heure actuelle que on ne peut pas dire que ça ne reviendra pas. Le terrorisme, il a des germes aussi. Alors il y a celui qui est exogène, celui qui vient d'ailleurs, mais on a connu des périodes aussi où on pourrait se retrouver en difficulté. Alors moi, je préfère le dire à cette classe politique, quelle que soit sa couleur politique, mais comment a-t-on fait pour laisser déjà une justice dans un État aussi exsangue qu'elle est, puisque, pour parler chiffres encore, il y a, pour chaque tranche de 100 000 habitants, il y a 3 procureurs et 9 juges en France, et la moyenne des pays européens pour cette même tranche de 100 000 habitants, il y a 10 procureurs et 20 juges. Alors comment on fait ? Moi, qu'on m'explique. Alors, effectivement, on fait du tri sélectif, qui était la spécialité des ordures ménagères avant, et de Loulou Nicolin, autre parfait honnête homme. Mais la justice, c'est pas le tri sélectif. Et d'ailleurs, le statut de la magistrature dit, le grand principe, que chaque affaire doit être traitée avec toute l'attention qu'elle mérite, parce que pour chaque justiciable, c'est son affaire, au civil comme au pénal. Et après, on va aux assemblées générales, et les chefs de cour et de juridiction nous disent « Non, attendez, il faut trier, parce que là, on n'y arrive plus, alors on met tout ça de côté. Ben, » Mais le jour où vous avez un loup, alors là, on va vous dire « Mais comment vous n'avez pas traité cette affaire-là » Là, le tri sélectif, c'est oublié.
Alors justement, avant de donner la parole à la salle, j'ai une dernière question, parce que vous êtes dans la ville de Bordeaux, où quelqu'un qui est cité dans votre livre à plusieurs reprises a fait ses études. Il se trouve, hasard des choses est ainsi fait, que j'ai eu Fabrice Burgot comme étudiant pendant toute une année quand il était à Sciences Po Bordeaux, et donc après qu'il a préparé l'École nationale de magistrature. Fabrice Burgot, et cette affaire d'Outreau, vous rappelez bien et précisément que c'est le juge des libertés et de la détention qui prononçait le maintien en détention des personnes qu'on a dit les victimes de l'affaire d'Outreau, hein, et pas Fabrice Burgot, qui avait un parquet qui était souvent plus dur, hein, que lui. C'est le type même du lampiste et du bouc émissaire que l'institution finalement s'offre à peu de frais pour essayer d'effacer ses turpitudes. Celle de l'institution, pas celle du juge.
Oui, bon, quand il y a une catastrophe, la justice n'échappe pas à cette règle-là. Donc, quand il y a une catastrophe judiciaire, chacun essaye de s'en tirer le moins mal possible. Bon, ça a été un naufrage judiciaire, cette affaire-là. Alors, effectivement, ça a été ciblé essentiellement sur Fabrice Burgot. Ce que vous dites est parfaitement exact. Je complète, même, c'est pas lui qui a mis ces gens, sauf les trois premiers, les trois premières, Myriam Badawi et les autres, en détention, puisque la loi a changé à partir du 1er janvier 2001, à compter de, en application de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence. On disait, les juges d'instruction, ils sont schizophrènes. Ils ne peuvent pas être enquêteurs et juges à la fois. D'ailleurs, vous le voyez bien, il suffit de me regarder. Et donc, ils sont schizophrènes, donc on va mettre un terme à cette schizophrénie. Ce n'est plus le juge d'instruction qui placera en détention. C'est un juge des libertés de la détention qui n'aura rien à voir avec le juge d'instruction, sauf que le juge d'instruction, il connaissait à peu près son dossier. Et même s'il faisait sérieusement son travail, il le connaissait. Alors après, il décidait une nouvelle fois, bien ou mal. Là, les juges des libertés et de la détention, moi, quand j'amène un dossier qui fait 40 tomes parce qu'on vient de me déférer quelqu'un, il va pas lire les 40 tomes, il lit rien. Il décide sur des critères encore un peu plus évanescents que les nôtres. Alors, ce système qui était censé nous guérir de tous nos maux, il a véritablement rien résolu. Leur dire que l'institution... Non, je pense que l'institution, pour une fois, et croyez-moi, c'était difficile dans une affaire comme l'affaire d'Outreau, disant il faut pas accabler non plus Fabrice Burgot de tous les maux, parce qu'à partir de ce moment-là, on vous dit, mais vous êtes corporatiste, vous voulez pas voir, l'institution judiciaire veut jamais remettre en cause ses propres certitudes. Il n'y a pas que du faux là-dedans. Hein. On voit très bien comment cette machine a pu fonctionner par le passé et fonctionne. Mais là, c'était une faillite judiciaire. Celui qui contrôlait le travail de Fabrice Burgot, c'était une chambre de l'instruction, qui elle aussi était noyée sous les dossiers. Donc le contrôle véritable qui aurait dû intervenir n'est pas intervenu. Fabrice Burgot a aussi des responsabilités là-dedans. Et le procureur de la République a les siennes et l'entièreté du système.
À vous écouter, on a presque l'impression que vous décrivez l'explosion du réacteur de Fukushima, quoi. C'est-à-dire que c'est une succession de sécurités qui ne fonctionnent pas,
oui,
et ça part dans une absence de contrôle, quoi.
Oui, et puis après, ça fait des catastrophes en chaîne. Alors, il y a celles qui arrivent à la surface, comme cette affaire-là, mais on a dit quoi après ? Il y a eu une centaine de préconisations de la commission parlementaire d'Outreau. C'était une commission parfaitement œcuménique. Hein, elle était présidée par André Vallini, socialiste, et le rapporteur, c'était M. Houillon, UMP. Et les parlementaires qu'il a composés étaient de tous bords.
Il y avait deux parlementaires dans le groupe, M. le juge, qui avaient eu à connaître de la justice, j'allais dire. Pas simplement comme professionnel. Oui, Georges Fenech et M. Floch.
Oui,
je dis parce qu'un UMP, un PS.
Oui, tout à fait.
C'est vrai,
oui, Georges Fenech, qui un ancien magistrat qui a eu quelques déboires avec l'institution judiciaire. Mais bon, le problème n'est pas là. Il y a eu un gros travail de fait, des préconisations. Et d'ailleurs, l'UMP, le PS et tout le monde disait, attendez, cette machine-là, on peut faire ce qu'on veut. Si on ne double pas le budget de la justice en l'espace de 5 ans, c'est-à-dire l'augmenter tous les ans de 20%, ce qui représente assez peu, puisque c'est 0,19% du PIB et à peu près 2% du budget de la nation. Donc. Et même les magistrats ne demandent pas ça, ils ont conscience de la crise. Mais enfin, la crise, combien les Espagnols, je reste européen, vont devoir donner à leur banque à 60 milliards d'euros. Nous, ce n'est pas des milliards et des milliards. Hein. Le budget complet, c'est 7,1 milliards et démerdez-vous pour faire bouillir la marmite avec ça, y compris construire des tôles et payer le personnel pénitentiaire. Tout ça, c'est le budget de la justice. Mais tout ça est parti et resté lettre morte. Et on a fait une loi portant collégialité de l'instruction pour éviter les isolements, en disant les magistrats sont plus seuls, ce qui justifiait en partie la réforme de la carte judiciaire pour les regrouper au sein de la juridiction la plus importante du département. Puis après, le président a dit qu'il faut supprimer le juge d'instruction. Et puis on a tout arrêté, et cette loi de 2007 qui avait été votée à l'unanimité par le Parlement, qui prévoyait la collégialité des juges, qui permet quand même un meilleur fonctionnement et une limitation du risque d'erreur, eh bien, tout ça est parti avec l'eau du bain. Cette loi est toujours pas en application, puisque son différé d'application, on en est au quatrième maintenant, est à 2014, parce qu'on a voulu supprimer le juge d'instruction, sans doute pour des raisons idéologiques, et peut-être également pour régler quelques comptes avec certains membres de cette corporation qui avaient été relativement indépendants dans les années 1990. Et la rancœur chez les politiques, elle existe à gauche et à droite, hein, il faut se faire aucune illusion. Mais les machines sont toujours plus fortes, puisque maintenant, on ne pourvoit plus les postes. On a perdu 100 postes de juges d'instruction sur 650 au cours des 3-4 dernières années, en ne pourvoyant pas les postes.
3 postes de juges d'instruction, dernière promotion de l'ENM.
5 sur 125 ouais. Magistrats qui sont sortis de Bordeaux, 73 postes au parquet. Moi, lorsque je suis sorti de l'ENM à Bordeaux en 1976... Après Jésus-Christ, madame, oui, je vous le confirme, vous regardez d'un drôle d'air. On était une promotion de 260 et il y avait 60 postes à l'instruction. Après,
260.
Mais là, maintenant, il va y avoir une promotion de 300 là, dans 2 ans. Parce que là aussi, on pourrait dire des tas de choses. C'est jamais facile, mais la manière de laquelle est géré le recrutement. Oui. Il n'y a plus aucune réflexion. Alors on met des réformes, après on dit bon, les hospitalisations d'office, la réforme des tutelles, etc. Tout ça, c'est très coûteux en magistrat. Et alors maintenant, on va en recruter 300. C'est jamais bon pour un corps d'en recruter 70 comme il y a 2 ou 3 ans, et puis après de passer à 300. Ça n'équivaut plus à rien. Et après, dans la gestion du corps, c'est absolument dramatique. Et j'imagine déjà les tueries, les carnages qui vont intervenir à la direction des services judiciaires, où les gens vont chercher des postes et notamment vont demander pour leur propre personne des médailles, ce qui est formellement interdit par la déontologie des magistrats. On ne doit jamais demander des médailles pour soi-même. On les demande pour un copain qui les demande après à son tour pour vous-même.
Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Monsieur Thiel va dédicacer les livres.